Il est le vainqueur de Golgotha. Nous n'attendons plus que le moment où tout lui sera soumis et où il règnera comme roi et manifestera sa victoire ici sur terre. Comme nous l'avons souvent dit, il a vaincu la mort, il a triomphé de l'enfer, il est ressuscité le troisième jour. Et par sa résurrection, nous avons nous aussi été justifiés. Et c'est là le fondement de notre résurrection. Notre enlèvement dans la gloire est ancré dans son enlèvement, dans sa montée au ciel. Tout s'est passé pour notre bien, afin que Dieu, et donc à cause de nous, afin que Dieu réalise son plan et ait pour toute l'éternité des fils et des filles autour de lui, comme il l'avait prévu lorsqu'il a créé l'homme. Nous avons entendu hier soir une parole merveilleuse, la parole comparée au droit d'aînesse. La comparaison a commencé avec Caïn et Abel, avec les deux arbres du jardin d'Éden, l'arbre de vie et l'arbre de mort. Cette comparaison s'est poursuivie avec Ésaü et Jacob, puis jusqu'à Jésus et Judas. Nous avons constaté que tout cela relève de la grâce de Dieu lorsqu'il choisit quelqu'un. Personne ne peut s'attribuer quoi que ce soit et dire « je l'ai mérité ». Cela aussi, frère Branham l'a si bien souligné. D'un point de vue extérieur, Ésaü était un homme raffiné, un homme bien. Il s'occupait de son papa. Il a fait tout ce qui était bon. Et Jacob, nous dirions en français d'aujourd'hui qu'il était rusé. Mais il y avait une chose dans son cœur. Il savait que la bénédiction de Dieu était liée au droit d'aînesse. Quel qu'en soit le prix, je veux avoir la bénédiction des premiers-nés. Il est écrit de notre Seigneur qu'il est le premier-né d'une multitude de frères. Il est écrit de lui, il est le premier d'entre les morts. On pourrait lire tant de passages bibliques, mais comme la prédication dure encore un certain temps, je continue avec la prédication. Paul a dit : je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de salut, la puissance pour le salut, la puissance de Dieu pour le salut qui agit dans son Église. Vous voyez, cet homme m'a alors dit, cela ferait de moi un pentecôtiste, ma réputation en serait ruinée. Je n'ai pas de réputation, je réfléchis à sa réputation. C'est de cela qu'il s'agit. Mais vous voyez où cela mène? Ils ont le sang de l'Alliance par lequel ils ont été sanctifiés. Comme rien, ils l'ont considéré comme rien et ils ont considéré comme rien du tout le sang de l'Alliance par lequel ils ont été sanctifiés. Et ils essaient de suivre leur propre voie. Ils ont entendu la parole, mais ils s'en détournent et alors il ne reste plus d'offrande pour le péché pour eux. C'est de sacrifice pour le péché pour eux. C'est ce que dit la Bible dans Hébreux 6, et il ne reste plus qu'à attendre pour eux le juste jugement de Dieu qui consumera les récalcitrants. Voyez, celui qui a rejeté la loi de Moïse est mort sur la base de deux ou trois témoins. Et un homme qui n'accepte pas ou qui a accepté la parole et le sang de Jésus et qui ensuite ne va pas plus loin, que se passe-t-il? Vous voyez où nous en sommes? Jésus a dit, faites attention, regardez Judas, il est parti avec tous les autres, il était l'Ésaü de l'époque. Il en sera de même dans cet âge, il était l'imitateur, regardez, il est venu et il était comme un frère de Jésus et il était avec tous les autres disciples. Mais dans son cœur, il était avec la vieille église formelle. C'est pourquoi il leur a vendu Jésus. et a vendu son droit d'aînesse. Vous voyez comment Ésaü l'a fait pour un plat de lentilles. Judas a voulu juger, a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Beaucoup d'hommes et de femmes vendent à cette époque leur droit d'aînesse pour la gloire, pour les choses du monde, etc. Les femmes n'écoutent pas la parole de Dieu, se coupent les cheveux, portent des shorts, des pantalons longs. Les hommes racontent des blagues, peu décentes, etc. Et aussi vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, dit la Bible. Je ne veux pas vous blesser, mais nous sommes très proches de la fin et nous allons bientôt monter l'échelle. Vous le faites. Ils ne sont pas prédestinés. Ils le font. Ils ne sont pas prédestinés. Ils peuvent bien imiter tant de choses, être si charmant, gentil, plein d'amour, se montrer si humble que cela séduirait même les élus. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Une femme aux cheveux coupés courts, avec tous ses vêtements, avec tout ce qu'elle présente, ne ressemble pourtant pas à une chrétienne. Vous voyez, il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui s'est maquillée, c'était Jézabel. Et vous les hommes, qui êtes censés être des hommes, permettez à vos femmes de faire cela. Dieu vous tiendra pour responsable. Vous n'êtes pas des hommes. Bien sûr que non. Regardez et voilà ce qu'on dit. Oui, quand on entend une telle prédication, je vais dans une autre église. Je ne vais pas laisser passer ça. Voyez, c'est ce qu'ils disent. Voyez, mais c'est ainsi et je peux le répéter. Bien sûr, ils l'ont fait et ils le feront encore. Ils feront des compromis. L'homme a dit, Philly, si tu n'arrêtes pas de prêcher ainsi, tout le monde va te quitter. Mais je veux dire une chose, le Saint-Esprit ne me quittera pas. Voyez, et les vrais croyants non plus. Car pour eux, c'est une nourriture pour leur âme. Ils feront ce que la parole de Dieu leur dira. Car il en est en eux comme en Jacob. Ils voulaient le droit d'aînesse. Pas l'adhésion à une église, mais le droit d'aînesse. Il y a en lui quelque chose qui l'animait. La profondeur appelle la profondeur, comme c'est merveilleux. Quelque chose en lui est là-bas. Et si vous le trouvez dans la Bible, vous pouvez remonter jusqu'à la Genèse. Comment les deux esprits ont leur chemin, voyez. Et nous vous le prouvons, mes amis. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Ne laissez pas cela vous dépasser, mais laissez-le vous pénétrer. Ce sont les choses de Dieu. Et nous arrivons au point culminant. Jésus a dit, comme cela se passerait dans les derniers jours, à savoir, les uns auront le sceau de Dieu, les autres la marque de la bête. Deux puissances spirituelles agissent ensemble. Vous savez bien que le sceau du Saint-Esprit fait partie du droit d'aînesse. Dans Éphésiens 4, verset 30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé. Le Saint-Esprit est là. Nouvelle naissance, vous êtes engendré par l'Esprit et vous naissez. Voyez, l'un est l'engendrement et l'autre est la naissance, comme dans le naturel. Voyez, la construction est après l'engendrement, la procréation. Mais quand cela sort à la vie, quand cela naît, voyez, alors on entend quelque chose et nous devenons une âme vivante. Oh, vous ne croyez pas seulement à l'église ou à l'assemblée ou à telle ou telle d'action qu'on fait, mais vous laissez ces choses se produire sur vous. Et si Dieu doit vous donner quelque chose pour vous faire crier, comment cela peut se passer lors d'une naissance naturelle? Comme cela peut se passer lors d'une naissance naturelle? Oh, vous dites oui. Je n'ai jamais rien dit à haute voix auparavant. Mais quand vous êtes né de nouveau de l'esprit, vous rendez gloire à Dieu. Alors vous avez la vie. Alors vous bougez. Tout comme un bébé naturel qui vient au monde à la vie. Il bouge. Ouais. Et ici, quand notre vie est terminée, nous avons en effet un bâtiment construit par Dieu. Bien sûr que oui. Tout est déjà préparé et un enfant qui sort du ventre de sa mère, il pousse un cri. Oh Dieu, aide-nous à naître, nous aussi, à crier à ce que tout se passe comme tu l'as dit. L'esprit en nous et il se fait connaître. Il y a un mouvement, vous voyez, car la vie est là, la vie éternelle. Regardez, et ce corps, il doit mourir. Une vie naturelle aura une fin, mais la vie éternelle n'aura pas de fin. Regardez, bien sûr, nous aurons là un corps surnaturel. Il nous attend déjà. Vous oubliez les choses du monde et vous venez au Seigneur. Et l'Esprit vient sur vous. Voyez, les deux esprits. Le Saint-Esprit est la nouvelle naissance. Naître de l'Esprit, par l'Esprit. Voyez, engendré et né ensuite par l'Esprit. C'est la nouvelle naissance. Voyez, vous êtes engendré par l'Esprit et ensuite vous êtes né et ensuite rempli du Saint-Esprit. Maintenant, nous voyons les deux choses, le naturel et le spirituel. Parfois, je l'ai déjà dit, et laissez-moi vous le dire maintenant avant que nous ne terminions dans quelques minutes. Dans le naturel, ou aussi dans le spirituel, dans les deux domaines, j'espère que vous le comprenez tous, que vous le comprenez. Soyez aussi pieux que possible. Et recueillis, avez-vous déjà vu cela? Vous voyez dans nos églises aujourd'hui, même dans les groupes plus petits qui se sont séparés, puis organisés à nouveau. Nous l'avons vu. Et quand, par exemple, quelqu'un prend un passage de l'Écriture et cet homme, si cela lui est destiné, il prend la parole, il la rend vivante pour vous, parce que l'Esprit est en lui. Un autre peut l'imiter et prendre la même parole et rien ne se passe. J'espère que vous comprenez, que vous pouvez lire ce que je veux dire. Voyez, pour l'un, l'Écriture est inspirée, pour l'autre, elle ne l'est pas. L'un l'a dans l'original, l'autre l'imite. Peut-être était-il envoyé par des hommes, peut-être par un séminaire quelconque, tout comme Jésus a dit ce qu'il en serait dans les derniers jours. Tout comme Jannès et Jambres ont résisté à Moïse. Il y avait Moïse, il y avait Jannès. Regardez, Moïse, un homme de Dieu, jeta son bâton devant un serpent et Jannès fit de même. Voyez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais que s'est-il passé? Le bâton de Moïse a mangé, englouti l'autre bâton. L'endroit où se trouvait Dieu, de quel côté il se tenait, fut révélé. Regardez, c'est comme ça aujourd'hui. On a le spiritisme, on a tout et des esprits et des églises à l'esprit humain. Vous dites, c'était pour une autre époque. Mais l'esprit de ces derniers jours imitera le véritable esprit aussi près qu'il le pourra. L'esprit de ces derniers jours imitera le véritable esprit aussi près qu'il le pourra. Comme cela s'est passé presque dans l'original. C'est ainsi que les deux choses seront révélées. Il n'y a pas d'autre moyen de les rendre crédibles. Oh Dieu, des gens viennent et disent, moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Ensuite, regardez, comme ils vivent, cela ne dure pas. Ils vont d'une réunion du réveil à une autre, d'une réunion à une autre. Voyez, ils ne l'ont pas. Quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, ils ont le fruit du Saint-Esprit. Ils vivent une vie divine, se tiennent à l'écart des choses du monde. Dieu entre en eux et prouve qu'il est en eux. L'autre chose est l'imitation. Voyez, l'imitation. Et il en a toujours été ainsi. Regardez Isaac et Ismaël. Une imitation. Et regardez le prophète Moïse et regardez le prophète Balaam. Regardez comme tout. Regardez Judas et Jésus. Judas et Jésus. Et Jésus, Jésus a en effet dit que le Saint-Esprit serait le sceau de Dieu et quelle serait alors la marque de la bête? Ce serait de refuser le Saint-Esprit comme sceau de Dieu. Ce serait accepter la marque de la bête automatiquement. Et tous ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu auront la marque. L'une est une vraie marque, l'autre une fausse. Regardez, la marque dans l'Ancien Testament. Si un esclave entendait le son de la trompette, et s'il voulait être affranchi et libéré, il pouvait être affranchi et libéré. Mais s'il ne voulait pas devenir libre, malgré le son de la trompette, alors il devait entrer dans le temple, s'approcher du poteau, et son oreille était percée d'un poinçon, et il devait rester esclave pour toujours. Si vous entendez le message, vous pouvez sortir librement, mais vous devez l'accepter, vous devez vous déplacer dans ces choses. Pas simplement venir jusqu'à la frontière, avoir une connaissance de celle-ci, mais aller avec, vivre, l'expérimenter personnellement. Oui, sinon, vous ne croirez qu'avec l'intellect et vous serez religieux, vous irez à l'église, etc. Mais alors, vous servirez l'autre maître. Voyez, soit la marque de la bête, soit le sceau de Dieu. Nous vivons si près de la chose. La parole doit être inspirée et reconnue. Voyez, et agissez en conséquence. Ici, nous avons des hommes et ils ne le reconnaissent pas. Mais c'est l'heure. Moi, disent-ils, je ne veux pas jouer le rôle d'un saint, mais ils ne voient pas de quoi il s'agit dans ce temps. Regardez, le grand Esprit Saint agit. Il se penche vers nous. Je l'ai vu, une vision est venue. Et j'ai dit que je voyais un jeune homme. Et j'ai alors fait signe au serveur du restaurant qu'il arrivait. Et j'ai dit, la femme qui va entrer, elle a une tumeur à la poitrine. Et voilà où elle est, où elle en est. C'est ce que j'ai dit à l'opérateur, au serviteur. Et puis, j'ai demandé à la femme, en sa présence, elle l'a confirmé. Et vous voyez, l'Esprit Saint agit partout, surtout dans les réunions. Mais ils ne l'acceptent pas. Ils suivent leur chemin. Ils sont de l'autre côté et ne le comprennent pas. Les femmes font ce qu'elles faisaient avant. Les hommes marchent et ils font la même chose. Comme le chien et le cochon retournent à leur crachat, etc. Ainsi font-ils bien qu'ils aient entendu. Mais vous devez comprendre, mes amis, dans quelle situation vous vous trouvez, que vous apparteniez seulement à l'Église ou à Christ. Voyez, si vous avez été appelé à passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie, d'une acceptation et d'une imagination formelle à l'expérience elle-même de la nouvelle naissance, et que votre vie est morte et que vous êtes uni à Christ dans une nouvelle vie, il y a quelque chose en vous qui a faim et soif de lui. Vous avez lutté et lutté avec le Seigneur et ensuite vous marchez avec lui parce que vous avez été changé, transformé. Voyez, peu importe, je peux prêcher ici jusqu'à ce que le dernier cheveu qui me reste soit tombé. Je peux vivre jusqu'à 90 ans ou bien 90 ans. À moins que la parole de Dieu ne vous soit rendue vivante par le Seigneur lui-même, par l'Esprit, sinon vous resterez dans le même état. Voyez, j'ai lu, étudié et demandé ceci pendant 2 jours. Seigneur, dois-je dire tout cela à l'Église? Il m'a répondu, oui, dis-leur, oui. Maintenant, je l'ai fait. Je sais que cela va bientôt arriver. Je veux que vous sachiez ces choses. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. Premièrement, bien sûr, dirent-ils, nous avons Abraham pour Père. Il répondit, votre Père est le diable. Et des grands hommes, des hommes de renom, reconnaissez. Voyez, le fruit de l'Esprit, la parole doit vous être rendue vivante. Regardez Noé. Ce n'est pas qu'il ait dit, oh, un jour il pleuvra, peut-être. Et quand ce sera le cas, j'entrerai dans l'arche. Et puis ce sera réglé. Non, ce n'était pas comme ça. Non. Que s'est-il passé? C'était un homme à qui Dieu pouvait révéler ce qui allait arriver. Et il a agi en conséquence. Quoi qu'en disent les autres, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Certains commencent par Jésus. Puis, quand les choses deviennent sérieuses, ils se retirent. Et l'homme m'a dit, si j'enseignais ce que tu enseignes, cela ruinerait mon ministère. Oui, pourquoi? Maintenant, voyez, c'est de l'orgueil, tant de personnalité. Mais comprenez et reconnaissez, Noé, c'était un homme, il entendait la voix du Seigneur et agissait en conséquence, peu importe le nombre de moqueurs qui se présentaient. Noé, tu es un saint rouleur, tu es ceci, tu es cela, qu'est-ce que tu fais? Regarde, il savait que Dieu lui avait parlé, il l'a reconnu et il a agi en conséquence, c'était conformément aux Écritures, il a commencé à construire l'arche. Pouvez-vous vous imaginer? Pourriez-vous jamais imaginer que Moïse, sur le chemin de l'Égypte, il y était en effet et il a dit à sa femme, C'est fora, je vais mettre un peu à jour ma grammaire et avoir un peu plus d'éducation et de formation. Et ensuite, je vais exécuter la chose. Après tout, j'ai fait paître des moutons pendant assez longtemps et maintenant, je vais me préparer en m'instruisant, etc. Et alors, je suis sûr que tout ira bien. Non, non, il attendait. Et quand il est parti de son propre chef, il est revenu. Et ça ne s'est pas bien passé. Et cela lui a causé des problèmes. Et l'Église aussi a trop souvent eu des problèmes parce qu'elle a commencé trop tôt et qu'elle n'a pas pu attendre que Dieu lui-même le fasse. Nous voulons que la puissance de sa résurrection se manifeste. Vous voyez? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des prédicateurs formés, mais des prédicateurs appelés par Dieu, des prédicateurs remplis d'esprit. De l'esprit, non pas la théologie d'une croyance ou d'une église, mais des hommes appelés par Dieu. Moïse a fait paître des moutons. Regardez. Et ensuite, c'est alors que cela s'est produit. Il dut se rendre à l'évidence. Tout son savoir et son savoir-faire échouaient. Mais alors, vous entendez la voix. Enlève tes chaussures, car tu te tiens sur une terre sainte. Il écouta. Qu'est-ce que c'était? La voix de l'ange du Seigneur parlait conformément à l'Écriture. Et c'est ainsi que le Seigneur Dieu a dit à Abraham, après 400 ans, je ferai sortir ton peuple d'Égypte. Il savait, il reconnaissait que c'était conforme aux Écritures. Et maintenant cela se révèle. Voyez, pouvez-vous voir de quoi je parle pour le temps présent par rapport à maintenant? La parole de Dieu se révèle maintenant. Pensez à Sodome et Gomorre, mais pensez aussi à la promesse de Christ pour ces derniers jours. Moïse a reconnu que c'était conforme à l'Écriture, que c'était une promesse. Il a entendu, il a reçu, il a agi en conséquence. Vous voyez, il a agi. Et il a abandonné tout le reste. Il avait le pouvoir de dire de ce qui devait arriver. Il avait l'autorité de prononcer ce qui devait arriver jusqu'à la division de la mer Rouge. Il a agi dans l'esprit de Dieu, dans l'obéissance. Et Dieu dit, je serai Dieu pour toi et tu seras Dieu pour Aaron et il sera ton prophète. Et cela fut ainsi. Cela fut fait. Voyez-vous, pas et à peut-être ou sinon, pas du tout. Vous savez bien ce qui s'est passé avec Akab et à l'époque, comme je l'ai déjà dit. Voyez, les gens ont été si longtemps dans l'erreur qu'ils n'ont pas du tout compris et n'ont pas su ce qui était juste. Mais ensuite, la voix du Seigneur a retenti et a été reconnue et il a agi en conséquence. Comme pour Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Quand le temps est venu de révéler l'épreuve de force, de faire savoir, on a alors dit, apportez votre offrande et rassemblez-vous tous. Invoquez votre Dieu. En effet, ils se sont gravés dans la chair, ont fait beaucoup de bruit et ont crié. Il y a dit, peut-être que votre Dieu est en voyage, peut-être qu'il dort, voyez-vous. Et ce n'est pas qu'Élie ait dit, je crois en Jéhovah, je peux faire ceci et cela. Non, il a attendu que Dieu le charge, le mandate, lui ordonne de le faire. Voyez pas, je suis un serviteur de Jéhovah. Il y en avait encore 7000 qui appartenaient au Seigneur. Non, il a attendu que l'ordre du Seigneur soit donné et a même fait verser de l'eau sur le sacrifice. Si un autre avait essayé de le faire, cela aurait été un échec. Le Saint-Esprit doit vous le révéler. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire « Amen, Alléluia, gloire à Dieu » et ainsi de suite et faire quelque chose. Non, non, cela doit être en vous. L'Esprit Saint, la puissance de Dieu doit être en vous. Regardez, quelque chose doit brûler comme si vous étiez en train de brûler. Voyez? Et il en sera ainsi. Les vieilles feuilles tomberont, les nouvelles apparaîtront avec le fruit. Voyez, vous aimerez la Bible, vous aimerez Dieu. C'est une nourriture pour votre âme. Voyez, Jésus lui-même, il a dit, je ne fais rien de moi-même. Le Fils ne peut rien faire de ce qu'il voit faire au Père, faire le Père. Voyez, il en était ainsi, bien qu'il fût Dieu sur la terre. Il était le corps de chair dans lequel Dieu habitait. Amen. Mais dans son corps de chair, le Fils de Dieu, né d'une vierge, Emmanuel, Dieu avec nous, dans sa condition de fils, ici, dans la chair, en tant que fils de l'homme, il a dit, « Je ne fais que ce que le Père me montre. » Satan a dit, « Fais que ces pierres deviennent du pain. » Le Seigneur répondit, il est écrit, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mais, quand la nécessité s'est fait sentir et que le temps est venu, il y avait un garçon avec une corbeille de 5 pains. Le Seigneur les a pris, les a multipliés et des milliers ont été nourris. Voyez, ce n'est pas de limitation, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons aujourd'hui avec les églises pentecôtistes. Beaucoup disent que nous avons le Saint-Esprit et ils imitent la guérison, ils imitent le salut, ils imitent tout. Voyez, cela vient par élection, appelé à sortir directement dès le début. Car les dons et les appels sont irrévocables. C'est ce qui est écrit. C'est vrai. Vous ne pouvez pas faire de vous ce que vous n'êtes pas. Mais si Dieu vous a appelé réellement, peu importe ce que les hommes pensent de vous, alors vous l'êtes. Voyez. Oh, si je pouvais parler et si j'avais le temps, comme les écureuils ont été appelés à l'existence, je ne pouvais pas le faire de moi-même. Non, je vois maintenant, sœur Hatterwhite me regarder. Lorsque la parole lui a été adressée, elle s'en souvient. D'abord, Dieu doit la révéler. Dieu doit le révéler. Ensuite, ensuite cela est prononcé et ensuite cela arrive, se produit. Regardez, Paul, quand il était là sur le bateau avec tous les autres, il n'avait pas vu le soleil depuis des jours et le bateau menaçait de rouler. Mais l'ange du Seigneur est venu dire à Paul, « Aucun de vous ne sera perdu, seul le navire sera perdu. » Regardez. Et nous devons tous veiller à ce que la parole du Seigneur nous parvienne premièrement. Il faut attendre le signe de Dieu. Même si vous êtes au feu rouge et que vous avez 120 chevaux, vous devez attendre d'avoir le feu vert. Ce n'est qu'alors que vous pouvez partir. Regardez, tout doit être là. Cela doit être inspiré et alors cela est en ordre. Mais jusqu'à ce qu'il le fasse, nous avons beaucoup d'imitateurs, des Judas qui sont partout. Voyez, ne vous rappelez-vous pas à l'époque des Actes des Apôtres? Un homme nommé Scélérat, apôtre, Actes apôtre 19, verset 14, comme il a dit, nous te commandons au nom de Jésus que Paul prêche. Le possédé répondit, je connais Paul et je connais aussi Jésus, mais toi qui es-tu? Voyez, l'imitation. Il en est de même aujourd'hui. Je vous tiens longtemps, je le sais. Mais Paul ne s'est pas contenté de dire ceci ou cela. Il a attendu d'avoir entendu un ange. Voyez, un ange du Seigneur est venu à lui et après cela, c'est après cela que Paul a parlé. Il a compris qu'il devait d'abord entendre avant de parler et ensuite il a agi. Voici qu'il a vu la vision. Rien ne sera perdu de tous ceux qui étaient là sur le bateau. Amen. Voici, inspiré de Dieu. Et alors, Dieu fait bien toutes choses. J'ai noté d'autres choses. Nous sommes à la fin de toutes choses. Permettez-moi de dire ceci encore comme suite, j'espère que Dieu vous a déjà révélé quelque chose. Tout est à la fin. Quelqu'un m'a demandé récemment, enfin, on m'a demandé à quel point sommes-nous proches de la fin? Combien de temps cela va-t-il encore durer? Regardez, et nous avons parlé ensemble comme ça. Et puis, nous avons commencé à parler de choses que le Seigneur a faites, y compris la promesse concernant Joseph et d'autres choses, et un accident que j'avais vu à l'avance. Puis, le frère Fred Sofman m'a demandé, d'où tout cela t'arrive-t-il? Comment cela arrive-t-il? et je n'ai pu que répondre, c'est à moi que cela arrive, je le reçois. Et nous le voyons maintenant dans le monde. Tout va vers la fin. La civilisation a commencé en Chine. Tout à l'est a fait son chemin jusqu'à ce qu'elle arrive sur le côté ouest des États-Unis. De là, elle repartirait et serait à l'est. Ouais, la Bible dit qu'un jour viendra qui ne sera ni jour ni nuit, mais qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Regardez, il y aura de la lumière. Regardez. Et Jésus a dit, il y aura une pluie de l'avant et de l'arrière saison. Et à la fin, les deux tomberont en même temps. La pluie de l'avant et de l'arrière saison, avant la moisson. Bien, nous sommes à la fin. Montrez-moi quelque chose aujourd'hui. Cette nation est sans doute la pire qui soit sur terre. Tellement corrompue, tellement impie. Qui a encore le courage, comme nous l'avons lu maintenant à Louisville, dans le journal. On cherchait la plus belle femme de la nation, puis la plus belle femme de l'univers. Et puis on a demandé aux Russes d'envoyer quelqu'un. Khrushchev était alors au gouvernement. Et vous savez ce qu'il a dit? Dans notre pays, les femmes ne sont pas effleurées, montrées nues, elles restent habillées. Nous n'envoyons personne chez vous. Regardez, et il a dit encore une fois, en Russie, on n'a pas l'habitude de déshabiller et de présenter les femmes de cette façon. Et on les appelle des athées. Tiens, nos chrétiens, que font-ils ici? Comme il est écrit, sur chaque table, il y a des vomissements partout. Les choses ne sont plus comme elles devaient l'être. Au lieu de ligne après ligne, prescription après prescription, comme le dit Ésaïe 28, règle sur règle. Mais qu'avons-nous maintenant? Une conception intellectuelle et nous pensons nous en sortir. Tout est corrompu partout. Tout est rendu public. Il n'y a plus de décence parmi le peuple. Tout ce qui n'est pas né de nouveau est de toute façon du diable. Et le diable est le dieu de ce monde. Le monde est en effet contrôlé par le diable, que ce soit dans le gouvernement ou qu'il soit. S'ils ne sont pas des chrétiens nés de nouveau, ils sont du diable. Et comme Jésus-Christ l'a dit, le diable lui a offert le monde, n'est-ce pas? Mais Jésus aura le monde et règnera dans le royaume de 1000 ans. Et moi, il voulait me condamner. Il voulait me condamner à 20 ans parce que j'ai perçu de l'argent que j'ai utilisé pour l'évangile. Il voulait me mettre en détention préventive pendant 2 ans, moi qui ai prêché l'évangile avec justice. Et il voulait me mettre en prison pour cela. Et tous ces multimillionnaires, ils peuvent tout écouler pour leurs cigarettes, pour leurs liqueurs, pour tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Personne ne frappe à leur porte. Vous voyez, ils s'en sortent avec tout. La corruption. Mais moi, vous vouliez me mettre en détention préventive parce que je prêche l'évangile. Vous connaissez la police fiscale. Eh bien, j'espère que je pourrai vous expliquer tout cela de manière claire. Ils voulaient me mettre en détention provisoire. Oh, comme les gens peuvent devenir bas, comme ils peuvent être sales, que Dieu ait pitié d'eux. Je dis une chose, peut-être que Dieu a permis une telle chose avant que la bombe atomique n'arrive d'une manière ou d'une autre. La mesure doit être comblée. Et il est toujours écrit, ne touchez pas à mes oints, à mes élus, à mes prophètes. Ne leur faites pas de mal. Peut-être doivent-ils maintenant faire la mesure que cela vienne, je suis ton serviteur. La politique si basse, les nations sont corrompues. Regardez, ils veulent maintenant faire défiler des soldats en culotte courte. La politique, les guerres et tout cela va partout vers la fin. Pourtant, vers la fin. La politique est perverse. Pourquoi ne reste-t-il pas avec un roi désigné par Dieu? Regardez, et que disait l'homme en Angleterre, le temps viendra où rien ne sera plus en ordre. Parce que les hommes politiques n'auront plus de colonne vertébrale, ne pourront plus tenir leur rang. Et c'est juste exactement ce qui se passe. Quelqu'un peut faire ceci ou cela, peut être ivre, peut provoquer quelque chose. S'il sait comment le faire, il ne sera même pas placé en détention provisoire. Regardez, et un autre, et même au sein du gouvernement, on dit ouvertement que 40% sont homosexuels. Sodome et Gomorre, au plus haut niveau, voici. Mais religieux, vous y êtes. Je me demande ce qui va se passer prochainement. Dieu, qui puisse nous donner un bon homme divin, comme Deb Eisenhower. Regardez, c'était un homme. Mais il y aura un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. C'est ainsi que les choses se passeront. La politique est corrompue. Nous le savons. Et les guerres sont là. Tout se termine. L'un est contre l'autre. L'un tire sur l'autre. Au début, ils avaient des armes de faible puissance et elles sont devenues de plus en plus puissantes. Puis, en Allemagne, ils ont inventé des armes et maintenant, ils ont la bombe atomique, la bombe à hydrogène. Nous sommes à la fin. Regardez, les nations ont cet équipement. Et il suffit de tirer sur la gâchette pour que cela se produise. Nous sommes à la fin. Amen. Les guerres arrivent à leur fin. La politique arrive à sa fin. La formation, l'éducation arrive à leur fin. Et la jeunesse, le crime, tous les enfants, vous voyez bien que c'est presque un asile de fous. Où pouvez-vous encore envoyer les enfants à l'école? Et que font-ils aux enfants à l'école aujourd'hui? Et si un enseignant se révoltait contre le système actuel, que se passerait-il? Il serait licencié. Je crois que 20 000 enseignants ont été licenciés parce qu'ils ne pouvaient pas suivre ce qui se passe actuellement dans les écoles. Regardez, le diable a tout sous son contrôle. Le diable les tient sous sa coupe. Qu'est-ce qui est encore normal aujourd'hui? Regardez. Et c'est comme si c'était une maison de fous. Ils font des choses qui sont déraisonnables, qui ne peuvent tout simplement pas être expliquées et qui ne peuvent pas être comprises. C'est ce qui se passe dans cette génération. Ils ne veulent plus d'enfants non plus. La féminité est à bout de souffle. Ils préfèrent avoir moins d'enfants et un chien à la place. Regardez la morale. Où est passée la morale? Les femmes se sont mal habillées. Tout est montré à la télévision. Et tout est Hollywood. Et toutes sortes de trucs. La mode et tout le reste. Tout va vers la fin. Les guerres, la politique, la mode, la civilisation, tout va vers la fin. Oh mon Dieu, que pouvons-nous faire? Nous sommes à la fin de tout, de toutes choses. Qu'en est-il de la vie de l'Église? Aussi l'Église aussi est à la fin. L'Église naturelle, peut-être que cela vous fera mal. Mais l'Église d'Ésaü, elle aussi arrive à sa fin, à son point culminant dans le Conseil mondial des Églises qui s'unira enfin à Rome et se fondera dans le catholicisme pour combattre et vaincre ensemble le communisme. Ils s'uniront. C'est ainsi, c'est ainsi par le Seigneur dans sa parole. Oh, vous dites oui, mon frère, frère Branham, mais maintenant, tu es certainement un peu à côté de la plaque. Non, parce que je suis dans la parole. Maurice Sorolo m'a dit, frère Branham, d'où vient l'Antichrist? Mais certainement des Juifs. Je lui ai dit, mais Maurice, qu'est-ce qui te fait dire cela? Il me répond à nouveau, il vient des Juifs de Jérusalem. Je dis, mais d'où tu sors ça? Il vient de Rome, pas de Palestine. Mais non, mais Dieu, lui-même juif, dit que l'Antichrist vient de Jérusalem, des Juifs. Oh, quand je lui ai expliqué cela, il a dit, frère Branham, je n'ai jamais vu cela comme ça. Je n'y ai jamais pensé. Vous voyez, une assemblée à l'esprit humain, et puis nous voyons l'Église spirituelle. Vous voyez, les pentecôtistes, tout le monde est dedans, organisé, bien sûr. les baptistes et qui qu'ils soient, tous réunis, n'ont pas de compréhension spirituelle. Non, ils ne sont pas choisis par Dieu. Ils ne sont pas séparés. Non, ils sont entrés dans ces choses. Oh, si seulement je pouvais faire comprendre de quoi il s'agit maintenant. Ils ne le voient pas. Ils ont des yeux, ils ne le voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Oh, pourquoi sont-ils si lâches, laxistes, tout arrive à sa fin. Et l'église spirituelle aussi arrive à sa fin. Oh, Dieu, mon Dieu, nous regardons en arrière. Quand elle a commencé avec Luther, elle a continué avec Wesley, puis avec les baptistes, avec Smith, puis avec les pentecôtistes, et maintenant, à la fin des temps. Et l'Église, et l'Esprit de Dieu, pardon, fait les mêmes choses que celles qui se sont produites dans le ministère de Jésus. Voyez, unis à Christ, préparés pour la venue du Seigneur. Nous sommes à la fin des temps. Jésus l'a dit aussi, comme il en a été au jour de Sodome, ainsi il en sera au jour du Fils de l'homme, quand il viendra. Regardez l'Église naturelle, de plus en plus loin de la parole. Et regardez l'Église remplie de l'Esprit. Elle a secoué toutes les stupidités. Elle a tout laissé derrière elle. Et elle est entrée dans la présence de Dieu. Elle avance avec le Seigneur, comme l'Esprit l'a fait avancer dans la voie de Dieu et lui permet de recevoir définitivement ce que le Seigneur a promis. Pas d'organisation. Non. Voyez, tous les autres retournent en arrière, sont eux-mêmes organisés, ils retournent à la grande organisation, à savoir qu'une image de la bête a été formée. Vous voyez, à savoir le Conseil mondial des églises, puis uni à la bête à Rome. C'est ce qui est écrit. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je dois conclure. Je vous ai dit que je serais long, mais je me sens simplement bien. Quand Dieu me dit, dis-leur, va vers eux, ne reste pas silencieux plus longtemps, dis-le-leur, montre-le-leur. S'ils ne l'acceptent pas, le sang ne sera pas sur tes mains. L'heure est venue. L'heure est venue. Tout arrive à son point culminant. Les guerres et toutes sortes de choses. Vous voyez? Si quelqu'un appuyait vraiment sur la gagette, maintenant, que se passerait-il? Vous voyez, les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes, regardez, tout repart en arrière. Comme ça, en arrière, bien sûr que oui, nous le voyons bien. Mais Dieu appelle à sortir de tout cela et fait son Église élue. Bien sûr, disent-ils, nous sommes l'Église. Ésaü aurait pu faire la même chose. Revendication. Mais Jacob avait le droit d'aînesse, voyez-vous? Voyez? Jacob, le frère d'Ésaü, mais l'un l'a méprisé, l'autre l'a reçu, l'a reconnu et l'a mis en pratique, a agi en conséquence. L'autre a dit, qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je dis maintenant et j'arrive vraiment à la conclusion. La vraie Église a de toute façon l'avenir. Elle sait pourquoi elle vit. La vraie Église, l'Église élue. Vous savez, dans votre cœur que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous savez ce que vous étiez autrefois et ce que vous êtes aujourd'hui, comment vous étiez dans le monde. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle création. Vous le savez, votre vie le prouve. Le fruit de l'Esprit en vous, tout ce dont il s'agit en vous, c'est de Christ. C'est le Christ. Vous marchez dans l'Esprit. Vous l'aimez et vous vous aimez les uns les autres. Voyez, et vous voyez comme Jésus le fait en vous aussi. Regardez, je me souviens d'un artiste peintre qui est allé à Rome avec quelques jeunes, et il voulait y étudier l'art de la peinture, etc. Et le chef là-bas, qui avait la surveillance et la vue d'ensemble là-bas, comme on fait à Rome, ils ont leur fête et ceci et cela, et les hommes et les femmes, vous savez ce qu'ils font, comment ils se comportent. Mais ce jeune homme, il était tout à fait différent. Et vous savez que là-bas, c'est comme ici et ici comme là-bas, sauf qu'aussi, c'est peut-être un peu plus que là-bas. Ici, mais maintenant, ce jeune homme se tenait à l'écart de tout. Ils sont allés à la fête, il les a laissés y aller. Ils allaient là, il les a laissés aller. Où qu'ils allaient, il les a tous laissés partir. Et un jour, cet homme, qui était lui-même chrétien, il a interpellé ce jeune homme et lui a dit, « Est-ce que je peux faire une petite promenade avec toi? J'aimerais te parler. » Et ils se sont promenés là un peu le long d'une colline. Et ce vieil homme dit au jeune homme, « Écoute, mon fils, tu es américain. » Il répondit, « C'est moi, oui. » Il a dit, « Mais tu es venu ici avec tous les autres pour faire tes études comme tous les autres. Tu veux faire des études d'art et es-tu chrétien ?» Il a répondu, « Oui, je suis chrétien. Mais je voudrais te demander maintenant, les autres disent aussi qu'ils sont chrétiens. Pourquoi es-tu donc si différent de tous les autres? Pourquoi les autres filles et garçons d'Amérique ne sont-ils pas comme toi? Et ils disent qu'ils sont aussi chrétiens. » Et il a dit, « Monsieur, voyez-vous le soleil se coucher là-bas? Là-bas, au-dessus de l'océan, dans une certaine ville et dans l'état de la Nouvelle-Angleterre, il y a une certaine fille, une certaine ville et une certaine maison. Dans la ville et dans la maison, il y a une certaine fille. J'ai promis de vivre vraiment avec elle. Je ne suis venu que pour faire mes études ici, puis je retournerai marié, la fille qui aussi me sera fidèle pendant le temps que je lui consacrerai. Et pendant le temps où je suis ici, ne t'étonne donc pas, mais c'est la raison. Voyez, peu importe ce que les gens disent, je l'ai dit à Fred, nous regardions ainsi au-dessus d'une eau et comment les vagues montaient et descendaient. Et il a dit, frère Branham, c'est si agréable ici, si beau comme le ciel. Et j'ai dit, écoute, là, au-dessus de la mer, là, c'est le ciel. Et là, dans le ciel, il y a Jésus. Il a pris tous mes péchés. C'est à lui que j'ai promis d'être fidèle jusqu'à ce que je le rencontre, jusqu'à ce que je le vois. Et c'est pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Mais je le proclame tel qu'il est écrit. Je suis différent. Il était différent. Comment maintenant la tête? Mes amis bien-aimés, avez-vous un but pour lequel vous vivez? Jésus est-il plus important pour vous que tout ce qui existe au monde? Regardez, il est au ciel, il vous attend. Recevez-le maintenant. Ne vous contentez pas de dire qu'il suffit d'appartenir à l'Église. Vous voulez avoir une expérience personnelle avec Christ. Vive une expérience avec lui. Il y a toujours eu dans votre cœur quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas encore bien. Ce n'est pas encore comme ça devrait être avec vous. Dieu vous appelle. Ne vous détournez pas de lui. Regardez, car il y en a déjà eu qui ont été illuminés et qui ont goûté et puis est venu le moment où aucun sacrifice n'était plus possible pour eux. N'attendez pas, venez avec Jacob, comme Jacob, faites ce que vous pouvez, mais apprenez, recevez ce droit d'aînesse. Si cela vous coûte le mari, si cela vous coûte la femme, si cela vous coûte les enfants, quoi que cela puisse vous coûter, si cela vous coûte quoi que ce soit, mais obtenez le droit d'aînesse, c'est ce qui compte. Si vous ressentez cela maintenant et que vous voulez le droit d'aînesse, je ne peux pas vous le donner, mais Dieu peut vous le donner. C'est lui qui vous parle. Leveriez-vous la main et diriez-vous, frère Branham, priez pour moi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Notre Père Céleste, je te remercie, toi, Dieu Saint, et précieux et noble, je te remercie d'avoir fait preuve de miséricorde envers les fils et les filles des hommes. Ils se rendent compte que nous sommes dans les temps de la fin. Cela ne peut plus durer longtemps, comme c'était au jour de Noé, comme c'était au jour de Sodome et Gomorre. C'était l'époque où la longanimité, quand seule l'arche était construite. C'était l'époque de la longanimité. Mais la longanimité de Dieu a quand même pris fin. Il ne voulait pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Oh, mes femmes, garçons et filles, jeunes et vieux, ont levé les mains et dit, Seigneur, aie pitié de moi. Oh Dieu, qu'il ne le refuse plus jamais, qu'ils vendent tout, leur formation, quoi qu'ils puissent être, mais être comme celui qui a trouvé la perle et qui a tout vendu pour acheter le champ où se trouvait la perle. Qu'ils puissent avoir cette attitude de vendre tout ce qui est cher pour eux dans le monde et qu'ils puissent donner tout pour te gagner. Beaucoup ont souvent entendu l'évangile, ne sont pas venus et sont restés dans le monde, dans les modes du monde, s'habillent comme le monde, vont à des fêtes, etc. Et ils agissent et marchent et se comportent comme le monde dans les choses du monde. Oh Dieu, qu'ils aient honte. S'il y a de l'espoir, aie pitié d'eux. Voici l'heure. Tous ceux qui ont levé leurs mains, aie pitié d'eux. Beaucoup d'entre eux sont encore dans les choses du monde et pensent pouvoir se réjouir des choses du monde, fumer, boire. Et parfois, ils disent seulement, boisson de compagnie ou quelque chose de semblable, et puis la luxure et ceci et cela. Et des jeunes femmes mal habillées, elles se donnent comme ça dans les rues, se font voir et font des mouvements de va-et-vient avec leur corps. Savez-vous que ces gens ne seront peut-être plus sur terre dans 24 heures, mais que leur dernière heure aura peut-être sonné? Où sera alors votre âme en enfer avec le diable? Venez au Seigneur, venez maintenant, que Dieu ait pitié de tous. Ô Seigneur, que cela ne passe pas sur eux. Sois miséricordieux, sois compatissant. Toi seul peux leur donner le droit d'aînesse qu'ils mettent tout de côté et te suivent. Accorde-le, Père, que le Saint-Esprit vienne sur cette assemblée, sur les malades, sur ceux qui souffrent, et qu'ils sachent que le message prêché aujourd'hui, que tout arrive à sa fin, et que Jésus est de nouveau efficace dans l'Église. Prends ton peuple dans tes mains, qu'ils voient que ton Esprit Saint est à l'œuvre, et que le message que j'ai prêché est confirmé. Et puissent-ils entendre, car ils ont entendu, puissent-ils reconnaître que le même Jésus, comme il l'a fait en son temps, est ici aujourd'hui et le fait à nouveau dans l'Église, dans les derniers jours. Bénis leur vie, leur âme, leurs âmes, leur corps, bénis-les entièrement, je te les consacre au nom de Jésus. Amen. Maintenant, où que vous soyez dans le bâtiment, nous n'avons pas distribué de cartes de prière, non. Mais lorsque Dieu me révélera, comme à la femme au puits, quelle est ta détresse, tu sauras que je ne peux pas savoir ce que tu as. Est-ce que toi, est-ce que vous autres aurez la foi? C'est la première fois que nous nous rencontrons. Tu m'as vu dans la réunion. Nous ne nous sommes jamais parlé. Que le Seigneur Dieu accorde ta requête. Est-ce une réalité ou non? Oh Dieu, qu'ils se rendent compte que la religion ne suffit pas. Comme sur le bon Carmel, sur le mont Carmel, nous n'avons pas besoin de réveiller Dieu. Non, de réveiller Dieu. Non, Jésus n'a pas eu besoin de le réveiller. Le Dieu d'Israël sommeille et ne dort pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu reste Dieu. Crois-tu qu'un mal de cœur te quittera et que tu seras guéri? Alléluia. S'acclame-t-elle. Tu n'es pas d'ici, tu peux retourner à Lexington et dire aux gens ce que le Seigneur a fait pour toi. Parfois, cela passe au-dessus de la tête des gens. Oh, puisse l'Église saisir rapidement ces choses. que les louanges, les remerciements soient rendus au Seigneur. Je ne pense pas que nous puissions ajouter quoi que ce soit à ce que nous avons entendu. Nous ressentons chaque fois à nouveau avec quel sérieux, avec quel dévouement Frère Branham a prêché. Nous avons particulièrement entendu les comparaisons hier soir, aujourd'hui, elles n'ont été qu'effleurées, mais il y a toujours les deux. L'un est produit par Dieu et l'autre est imité. Il y a, comme nous l'avons entendu, Caïn, il y a Abel, il y a l'arbre de vie, l'arbre de la mort. J'ai brièvement réfléchi à cela, sans doute hier ou avant-hier. Dans la conversation du serpent avec Ève, il y avait en fait un objectif principal. Et l'annonce était « Vous serez comme Dieu ». Vous serez comme Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens voulaient le devenir et n'ont pas compris que si l'on veut devenir comme Dieu, cela ne peut venir que de Dieu et non du serpent ou bien alors par lui. Mais aujourd'hui aussi, tout est présenté comme venant de Dieu et vous devenez et vous deviendrez. Vous ne devenez pas, vous ne deviendrez pas à moins que Dieu le fasse, à moins que ce ne soit vraiment biblique. Et nous remercions le Seigneur qui nous a ramenés à sa parole. Toutes les choses que Dieu fait, il les fait selon sa parole. Et tout ce que ses serviteurs font, ils le font aussi selon sa parole. Comme Élie a pu le dire, j'ai tout fait selon l'ordre ou la parole du Seigneur. Et cela s'est passé ainsi. Nous aussi, nous n'attendons pas en vain. Cela se fera parce que Dieu l'a dit dans sa parole. De même, le langage clair de Frère Branham sur Rome, sur l'Antichrist, etc. Les plus grands enseignants de la Bible, des gens qui parlent de la nouvelle naissance et de l'accomplissement et d'être remplis de Saint-Esprit, qui parlent des langues nouvelles et anciennes, qui écrivent et disent tout et n'importe quoi. Tous cherchent l'Antichrist partout, sauf pas là où il est vraiment. Et je vous le dis, la séduction est telle et si grave qu'on peut à peine la supporter. Cela aussi, nous l'avons entendu, c'était aussi relativement nouveau pour moi. Je connaissais en effet l'histoire de la taxe imposée à Frère Branham. Il a encaissé beaucoup d'argent et les chèques ont tous été libellés en son nom. Mais ils ont été versés dans la caisse de l'Église. Mais comme son nom y figurait, cela a été réglé comme avoir été pour lui. Pour ainsi dire, et un jour, la plainte est arrivée là aussi, et voilà, le grand problème est apparu. Frère Branham m'a dit personnellement qu'il lui avait retiré son passeport. Il ne pouvait pas quitter le pays. Il était en grande difficulté. Je me demande pourquoi. Je m'étonne pourquoi je dois être dans la même détresse ou pourquoi nous devons être dans la même détresse. Mais Dieu a ses voies. Il ne laisse rien passer à moins que cela ne lui échappe ou bien passe par lui. Et cela aussi, nous l'avons entendu hier. Judas, qui était si proche du Seigneur et qui est parti avec tous les autres, et comme le dit si bien Frère Branham, a chassé des démons, les démons, et a fait toutes sortes de choses. Et puis Satan est entré en lui et c'était arrivé déjà. Bien-aimés, nous devons être vigilants, faire très attention et persévérer dans la prière devant le Seigneur. Croire simplement en Dieu et ne pas avoir de motifs personnels. Mais nous devons toujours nous préoccuper de la parole et de la gloire de Dieu. Dès l'instant où un homme veut obtenir quelque chose de personnel dans le royaume de Dieu, même pour lui-même, les choses tournent mal. Judas a vendu Jésus, mais il a quand même jeté les pièces d'argent. Cela lui est tombé dessus. Il savait bien ce qu'il avait fait. Bien-aimés, le temps s'est écoulé. Dieu nous a parlé. J'ai dû le dire ou essayer de le dire hier soir. Parce que nous vivons maintenant la partie de l'histoire du salut. Nous avons à traverser toutes ces choses. Il nous arrive maintenant ce qui est arrivé à d'autres en leur temps. Et donc, cela ne devrait pas du tout nous déconcerter, mais nous devrions être reconnaissants que les choses soient comme elles sont. Car tous les autres sont laissés en paix. Pensez à Apocalypse 12. Le dragon se tient devant la femme qui doit donner naissance au fils mâle. Il laisse tout le reste en paix. Mais l'Église, d'où doit naître la troupe des vainqueurs, c'est là que se trouve la détresse, c'est là que le dragon se dresse et c'est là qu'il veut dévorer, c'est là qu'il veut détruire. Nous devons simplement classer et voir cela d'un point de vue biblique. Peut-être que moi aussi je deviendrai reconnaissant pour tout ce qui est arrivé sur moi et sur nous. Si je vois dans l'histoire du salut qui suit maintenant son cours, je crois l'avoir dit à Zurich et l'avoir également mentionné ici. Si nous lisons toutes les histoires de l'Ancien Testament et que nous ne les faisons pas entrer dans l'histoire du salut du Nouveau Testament, nous les aurons lues en vain. Nous pouvons lire sur Noé, sur Moïse, sur Abraham. Nous pouvons lire jour et nuit, à moins qu'une lumière ne s'allume et ne nous révèle de quoi il s'agit réellement. Pas seulement lire une histoire, mais comme celle d'Ésaü et de Jacob maintenant par exemple. On pourrait lire cela comme un roman, puis fermer le livre et partir. Mais la Bible n'est pas un roman. La Bible est la sainte parole de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour que l'homme de Dieu soit parfait, envoyé, donc prêt, adapté à toute bonne œuvre. Amen. Je vous le en prie, frère Rousse. Fidèle Seigneur, ô Dieu, ensemble nous venons à toi, ô Seigneur, regardant dans le haut, vers le haut, dans la foi, dans la faiblesse, tel que nous sommes, ô Seigneur. Mais tu as promis de devenir puissant dans les faibles, et en effet, tu l'as donné dans l'homme faible. Branham, tu t'es révélé par lui. Ô Seigneur, quelle grâce, comme au début, Seigneur, il a pu dire à cet homme, la femme qui entre à une tumeur au sein. Seigneur, qui pouvait le dire en ces jours où tu étais toi seul, Seigneur? Oui, Seigneur fidèle, mon Dieu, de nos jours aussi, tu as promis de demander, de demeurer parmi les tiens, et tu as donné ton... Tu as donné ton accord au Seigneur et tu as révélé ta parole dans les faits et tu l'as confirmé, Seigneur. Nous te remercions sincèrement, même si nous pensons à ce que tu as fait pour nous tous, même pour mon corps. Ô Dieu, que ton saint nom soit honoré, loué, glorifié et adoré, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis-nous tous ici. Sois proche de nous, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit, Seigneur, que tout soit renouvelé dans nos vies. Seigneur, nous, les vieux qui sommes croyants depuis longtemps, nous voulons être renouvelés, nous avons besoin de ta puissance, de ta divine puissance, nous avons besoin de ta présence, Seigneur, nous avons de plus en plus besoin de toi, chaque jour, chaque heure, chaque instant, Seigneur. Nous ne savons pas quand nous serons appelés, mais nous voulons être prêts quand tu appelleras. Ô Seigneur, que nous puissions marcher avec toi, aller avec toi, que nous soyons là où tu es. Ô Seigneur, à quoi cela nous servirait-il d'avoir couru, Seigneur, d'être venu à l'église, à l'assemblée, ô Seigneur, aux réunions, si nous ne pouvions pas y être? Si nous ne pouvons pas être là-bas où tu seras, Seigneur, où tu es, nous voudrions tous être là dans ta gloire. Nous voudrions être avec toi. Bénis-nous, Seigneur, et sois avec nous. C'est notre prière et bénis ton peuple, Seigneur, proche et loin, dans tous les peuples, dans toutes les langues et dans toutes les nations. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont malades, ô Seigneur, et qui ont besoin de ton aide. Sois avec tous, ô Seigneur. Tu connais toute détresse, ô Dieu. Et c'est pourquoi nous te demandons, sachant que tu peux donner tout ce dont nous avons besoin. Que ton saint nom soit loué et glorifié. Amen.